me semble qu'il y a une erreur majeure. Je pense que les sciences sociales ne sont pas là pour produire des histoires, hein, pour donner des histoires aux élus politiques. Hein. Les sciences sociales sont là pour analyser les histoires, pour déconstruire les histoires, pour analyser les effets de ces histoires, surtout pas à offrir des histoires aux élus. C'est les élus qui transforment souvent les résultats des sciences sociales en une histoire. Et s'ils produisent des histoires, c'est un aveu de faiblesse de la part des sciences sociales. Alors, votre communication, elle pose le problème du rapport entre l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité scientifique, d'une certaine manière, puisque pour qu'il y ait une acceptabilité sociale, il faut qu'il y ait peut-être au préalable, par rapport à un certain nombre de faits, une acceptabilité, un consensus scientifique sur un certain nombre de valeurs qui sont réalisées. Or, comme je le disais ce matin, il me semble que le développement durable, on est loin encore d'avoir un consensus scientifique sur ce que veut dire le développement durable, sur la notion de durabilité, etc. Donc il y a encore beaucoup de travail et de recherche à faire. Ce que vous nous avez proposé comme panorama, l'état de savoir du développement durable, je ne sais pas s'il est satisfaisant. J'en doute. Hein. Je pense que la première réflexion qui était partie du rapport Renan me semblait intéressante en soi parce qu'elle posait l'autonomie de trois sphères, les trois sphères qui composent le développement durable. Or, à partir de là, vous faites tout votre raisonnement, vous faites dépendre les deux autres sphères de la sphère environnementale, hein, qui va dominer. L'environnement devient la contrainte majeure qui devra soumettre tous les autres contraintes. Alors, il me semble là que ça pose des problèmes, comme dirais-je, les phénomènes épistémologiques et anthropologiques énormes. Et là, je ne sais pas si on peut vous suivre dans cette voie. C'est vrai que, ce que vous faites, le problème de la critique économique que vous faites, elle est juste parce que, effectivement, sans changer de paradigme économique aujourd'hui, on ne pourra pas construire le développement durable. Mais il faut bien voir quel est ce paradigme économique auquel on a affaire aujourd'hui, c'est celui du néolibéralisme, bon, qui règne depuis les années 80, depuis cette chair. Alors voilà, je termine. Donc, je dirais que c'est ce paradigme qu'il faut changer, hein, c'est ce paradigme qui effectivement explique aujourd'hui le premier schéma que vous avez montré, qui est montré comment les deux autres sphères sont sous la dépendance de l'économie néolibérale, mais c'est une réflexion effectivement qui a commencé sur l'économie libérale et aujourd'hui d'ailleurs la science économique elle-même se trouve dans l'impasse. La science économique n'a pas de réponse, c'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui l'économie libérale, cette économie dont vous avez parlé, elle a conduit au désastre, le désastre dans lequel on est aujourd'hui. Et nous n'avons pas de réponse. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui à la sortie de cette crise. Hein, cette crise qui va durer, dans laquelle on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et à partir de là, donc, c'est un changement de paradigme économique qu'il faudrait opérer, mais tout en sauvegardant, je dirais, l'autonomie des autres sphères également. Je veux dire, et c'est toujours dans l'interdépendance et dans le rapport avec ces autres sphères qu'il faudrait arriver à construire cette notion de durabilité. Voilà, merci. Là, j'étais un peu confus.
Merci. Donc, le micro marche maintenant. Donc, la parole est à... On reste une basse. Alors je profite, donc, les personnes pour... Parce que...
Je voulais juste savoir si les intervenants avaient peut-être une idée sur le pourquoi du comment, peut-être au niveau du ministère, on n'a pas un peu plus de communication, mais très explicite sur concrètement les désastres qui nous attendent dans les prochaines décennies, mais des choses très concrètes, comme un peu la campagne de Padel. Parce qu'en fait, quand on est sur le terrain, tout ce qui est là, même les habitants. Sont très engagés en fait. On n'a pas tellement d'idées sur ce que fait la tête, etc. Enfin, donc, il y a des choses, mais finalement, ça ne fait pas tellement pourquoi. Enfin, c'est très.
juste une question, alors qui s'articule en fait à celle-là, un peu paradoxalement, mais je voudrais revenir sur la deuxième intervention. En fait, par rapport à cette question du changement climatique, etc., il y a deux positions. Il y a soit la première position qui doit être tenue en disant voilà, c'est l'urgence, c'est inacceptable le fonctionnement qu'on a actuel, l'urgence nous impose, et donc il faut un volontarisme politique. Ça, c'est la première position. Il y a une autre position qui est de dire en fait, les changements de comportement demandés aux populations sont tels que pour qu'ils se les approprient, la position volontariste n'est pas suffisante. Que donc il y a d'autres réflexions à mener et d'autres positions à avoir qu'une simple position volontariste, et que donc il faut travailler cette question d'appropriation. Et donc je reviens à votre intervention et vous parlez à un moment donné, vous avez parlé des tendances spontanées de la population en termes de comportement. Donc vous avez premier exemple sur le fait qu'on se chauffe plus qu'avant, le fait qu'on est plus mobile qu'avant, et le fait qu'il y a une diffusion de l'habitat dans l'espace beaucoup plus grande qu'avant. Or, ces trois postes sont éminemment la résultante de politiques publiques massives qui ont été faites ces 50 dernières années, voire plus. Donc, on prête à une spontanéité d'individus quelque chose qui relève avant tout de politiques publiques. Et donc, je me suis dit qu'en fait, il y a un raisonnement inverse. C'est-à-dire que dans le premier, dans le cas du volontarisme, on considère que
finalement, les populations... Donc que les populations et les individus ne sont pas capables, de transformer leur comportement, d'où le rôle du politique, politique volontariste. Et dans le deuxième cas, celui de la spontanéité évoquée, finalement, il y a un comportement mimétique des populations, des individus, et donc on se demande, mais alors, où est le politique? Que faisait le politique pendant ce temps? Et en fait, moi, ce qui m'a marqué dans votre intervention, c'est finalement qu'elle traduit, à mon avis, hein, pour le politique, un manque de confiance dans le social et dans les collectifs. Hein, dans le collectif, et donc finalement, un manque de confiance dans la démocratie et dans quelle mesure la démocratie serait capable de nous sortir de cette impasse socio-économico-environnementale, etc., etc. Et la conclusion de votre intervention sur, en gros, le rôle des élites, etc., etc., me conforte dans cette idée qu'il y a un manque de confiance du politique envers les populations et les collectifs.
J'ai une question à adresser à Guillaume et puis une réflexion à soumettre à Bernard Querelle. Une question à Guillaume Faburel au sujet de l'usage qu'il fait de l'analyse des discours des discours des acteurs de l'aménagement et de la façon dont on peut appréhender le lexique, l'argumentaire, le raisonnement qui sont émis par les protagonistes des politiques urbaines, des politiques d'environnement, etc. Il me semble que un certain nombre de travaux plus ou moins récents ont montré que d'une certaine façon, le discours partagé et l'action collective qui consiste à aménager, conduit à produire des discours partagés. Donc ces discours partagés sont très largement régis par ce qu'un sociolinguiste comme Maguenaud appelle le dialogue de sourds. C'est-à-dire que quand chacun, du haut de son rôle institutionnel, de sa compétence professionnelle, de sa discipline d'origine, etc., prend la parole dans un cénacle où il s'agit de produire une action collective, chacun produit un ensemble d'assertions, de justifications, d'argumentations, etc., qui sont à peu près ignorées et pas comprises par les autres, mais c'est pas grave dans la mesure où finalement ce dont il est question, c'est pas de produire un discours commun qui a un sens, qui, on porterait la compréhension unanime et l'action dirigée vers un but vraiment partagé. En fait, ce qu'il s'agit le plus souvent dans ce genre de paroles collectives, c'est la construction de quelque chose comme une autorisation à agir, comme quelque chose comme le partage minimal d'un certain nombre d'objectifs qui permettent aux intérêts des uns et des autres de ne pas se trouver trop froissés. D'une certaine façon, c'est la production d'un compromis acceptable par les uns et les autres, compromis entre les différentes cultures, différents intérêts matériels, mais aussi cognitifs, axiologiques, etc. Autrement dit, d'une certaine façon, les mots de l'aménagement ne valent pas par le sens intrinsèque qu'ils auraient, mais ils valent par le fait que ce sont des mots vides ou des mots valises, que ce sont des mots dans lesquels on peut inscrire toute une série de conceptions très hétérogènes, et justement c'est l'hétérogénéité de ces mots qui fait leur valeur, leur pouvoir d'articulation. D'une certaine façon, le mot mixité, ça peut aussi bien vouloir dire « je vais mettre plus de pauvres chez les riches » selon conformément à la loi SRU, mais ça peut aussi vouloir dire l'inverse, c'est-à-dire « je vais mettre plus de riches chez les pauvres », c'est la politique de l'ANRU qui essaye de banaliser et de valoriser la potentialité foncière des quartiers et des grands ensembles. Donc les mots, plus ils sont vides de sens, plus ils ont une capacité, d'une certaine façon, à produire une surface de conciliation des intérêts parties prenantes de l'action collective. Donc il me semble que là, dans le travail que tu as mené sur les habitants, et sur l'acceptabilité sociale et sur les justifications des uns et des autres, cet aspect est peut-être trop méconnu, or il me semble cardinal d'une certaine façon pour comprendre la façon dont on produit à la fois du discours mais aussi de l'action dans le domaine de l'aménagement. Bon, voilà la question, enfin, ou qui est plus que d'être une remarque qu'une question d'ailleurs. Et puis maintenant, concernant le propos de Bernard Perret, son propos, quand même fondamentalement apocalyptique, je me demande s'il n'ouvre pas finalement sur un scénario qui serait celui le plus probable, qui serait celui d'un choix qu'auraient les sociétés entre, d'une certaine façon, une forme de darwinisme international, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, George W. Bush disant le mode de vie américain n'est pas négociable. Ou alors, quelque chose comme un technofascisme écologique qui imposerait au nom de valeurs supérieures la renonciation par la civilisation occidentale notamment des valeurs d'émancipation individuelle qui étaient au fondement de la démocratie libérale, c'est-à-dire la nôtre.
Encore une question. Il y en a combien ? Deux ? Par contre, il faut vous déplacer.
Ouais, c'est une toute petite question. C'est par rapport à cette idée d'inacceptabilité qui là prend des dimensions un peu dramatiques avec le climat et tout. Est-ce que ce qui est devenu inacceptable, c'est pas en termes de représentation l'aléa de la nature ou l'aléa de l'humain, cet aléa-là est devenu. Ce qui me fait faire cette réflexion, c'est la multiplication des procès, par exemple, en médecine, qui est arrivé beaucoup aux États-Unis, qui est en train d'arriver en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'erreur humaine du médecin, ou alors l'aléa d'une opération se produit, cet aléa-là est devenu acceptable. Et on voit la multiplication des procédures de le patient qui signe avant d'être opéré, ou alors qui fait un procès après une erreur. Et sur une toute petite, un petit exemple comme ça, on voit que l'aléa de la nature ou de l'humain est devenu inacceptable. Et donc, là, du coup, le changement climatique en soi et les conséquences qu'il peut avoir est de fait inacceptable parce qu'on ne tolère pas que ce rappel à cette matière vivante, naturelle. Vous voyez le lien que je fais, c'est pas évident. Mais...